Welcome.
Bienvenidos.
Konnichiwa.
Saluete.
Bon dia.
En la Torre de Babel vivían 50 cigarros, vivían amontonados, hechos todos de papel, uno a uno alineados, todos muy bien formados. El más pequeño era aquel y se llamaba Gabriel.
Bonjour, vous écoutez Radio Calliope sur le 101.1 FM, une émission 100% langue. Je m'appelle Katrina Mikrohan, je suis lectrice d'anglais à la faculté de lettres de l'UBO. Marlene Jones, ma collègue à la fac, m'accompagne aujourd'hui en studio. Bonjour Marlene.
Bonjour Katrina et bonjour chers auditeurs. Ceux que vous qui ont écouté notre émission de mars se souviennent peut-être que nous avons annoncé que l'émission sur les langues et les cultures celtiques était la dernière émission de cette deuxième saison de Radio Calliope. Mais nous voilà de nouveau avec vous en studio de Radio U.
C'était un poisson d'avril, j'imagine.
Oui et non. En fait, on a compris que le sujet des langues et des cultures celtiques est tellement vaste et intéressante que c'est juste impossible de couvrir tous les sujets que nous avions préparé dans une seule émission. De plus, nous n'avons pas eu le temps pour la partie la plus importante de notre émission. Ok, pas la plus importante, mais la plus délicieuse, la recette de cuisine. Donc, chapter 2 de l'émission sur les Celtes s'impose.
Donc cette fois, nous allons nous concentrer sur la définition de la culture des Celtes du point de vue des spécialistes en études celtiques. Et nous allons aussi demander aux gens qui se considèrent comme Celtes ce que appartenir à cette culture veut dire pour eux. Nous allons également apprendre comment l'enseignement des langues et des cultures celtiques s'articule à l'Université de Bretagne occidentale et plus précisément au sein des services tels que le CIL, c'est-à-dire le Centre interdisciplinaire des langues, l'APOL Langue et le CRBC, le Centre de recherche bretonne et celtique. Et finalement, pour nous faire comprendre mieux en quoi peut consister la recherche dans le domaine de la culture celtique, deux doctorants en études celtiques à Brest vont nous parler des sujets de leur thèse, très intéressant, qui sont tout à fait différents, mais tous les deux vraiment passionnants.
Et comme la tradition le demande, nous allons vous présenter une recette de cuisine. Et aujourd'hui, ce sera une recette irlandaise. N'oubliez pas de rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour être au courant des événements sur les langues à Brest et aux alentours dans notre section Agenda des langues. Et comme c'est impossible d'imaginer la culture celtique sans musique, nous allons écouter beaucoup de musique de différents genres.
Alors, qui sont les Celtes et d'où ils viennent d'origine? Et est-ce que les Bretons et les Irlandais installés à Brest se sentent vraiment Celtes? Et si oui, qu'est-ce que cela veut dire d'être Celtes pour eux? Découvrons tout de suite leur réponse précédée par une explication plus scientifique du terme culture celtique proposée par deux experts. Et voilà deux doctorants, Ksenia Kudenko de l'Université de Cork et Malo Ade de l'UBO qui peuvent nous éclairer le concept du terme Celte.
Bonjour, je m'appelle Ksenia, je suis venue de la Russie, de Saint-Pétersbourg. À présent, j'habite à Cork, c'est au sud de l'Irlande, et j'ai fait ma thèse de doctorat. Je travaille avec des manuscrits irlandais de Moyen-Âge. En fait, le terme celtique est plutôt un terme problématique. Parce que, par exemple, comme l'écrivain anglais très bien connu, professeur Tolkien, a dit, le celtique, c'est une boîte vide où on peut mettre tout ce qu'on veut. On utilise le terme celtique pour décrire des gens qui parlent des langues celtiques à présent. Donc, ce sont des Irlandais, des Bretons, des Gallois, des Écossais, etc. Mais quand on parle de la culture celtique, cela devient vraiment problématique. Parce que les Celtes ne pensaient jamais qu'ils appartiennent à la même race. Entre eux, les Irlandais et les Gallois, ils comprenaient jamais qu'ils sont des Celtes. Et en fait, dans la culture moderne, le sens de ce terme s'est beaucoup changé parce que ce qu'on appelle la culture celtique aujourd'hui, c'est plutôt la culture de l'Irlande, du Pays de Galles. Et cela comprend la musique, l'art, les danses. Le terme celtique, c'est quelque chose plutôt très conventionnel et très artificiel, en fait, pour décrire les éléments culturels qui sont populaires sur des îles.
Les Celtes, enfin, à la base, c'est un mot grec pour désigner un certain nombre de peuples qui ne sont pas grecs. Donc, de ces Celtes aujourd'hui, ce qu'on peut dire, on peut donner une définition qui est linguistique. Donc, on considère, en effet, c'est assez large, les langues celtiques, c'est un groupe, c'est intéressant parce que c'est le groupe qui aujourd'hui est le plus, le groupe linguistique qui est le plus petit de toutes les langues, d'Europe. Si on accepte les langues qui sont toutes seules, comme l'albanais ou le grec. Mais les langues celtiques, c'est un tout petit groupe aujourd'hui. Mais il y avait plein d'autres langues, comme le gaulois, le lépontique, qui ont disparu. Le celtibère également. Aujourd'hui, on a les différents gaéliques et les langues britonniques, le gallois, le cornouaillais et le breton. Enfin, le cornique et le breton.
Pour vous, comme breton, qu'est-ce que ça veut dire d'être celte?
Ça veut dire d'appartenir à une certaine culture, dont différents pays, dont l'Irlande justement, et je ne saurais pas dire, avoir des points communs, des envies communes, où que soit le pays, quoi.
Alors pour moi, qu'est-ce que c'est être celte? Déjà, je suis d'origine bretonne, donc je suis né en Bretagne. Mais qu'est-ce que c'est être celte? C'est peut-être croire en la culture de son pays, donc ici la Bretagne, qu'elle soit ici aussi forte musicalement qu'au niveau de la langue. Moi je suis celte musicalement et par la langue, parce que je fais de la musique traditionnelle bretonne.
Je parle breton depuis que je suis toute petite, et je fais de la danse bretonne aussi, et mon père est irlandais, ma mère est bretonne. Du coup, pour moi, je suis plus bretonne que française, et du coup, je revendique pas mal ça. Et j'ai commencé à apprendre le gaélique aussi cette année.
Pour moi, ça fait un lien entre mon pays et d'autres pays avec la culture celtique. C'est une grande partie de la culture irlandaise.
En Irlande, on ne sait pas grand-chose sur d'autres langues et culture celtique. J'ai fait la connaissance d'une étudiante écossaise qui parlait gaélique écossais. J'étais surprise par le fait que les deux langues ont beaucoup en commun.
Je me sens celte parce que mon père est breton et ma mère est cornouaillaise. Et j'ai été baignée dedans dès que j'étais petite, et pour moi ça m'identifie, en fait. Je suis celte et je suis pas que breton ou pas que britannique, je suis les deux. Je suis celte.
Moi aussi je me sens celte, que j'ai un prénom celte, et pareil, ma mère est galloise, donc là aussi c'est un peuple celte, et ma mère parle gallois et mon père parle breton, et c'est des langues qui sont très proches, donc j'étais aussi dedans depuis que j'étais toute petite.
Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie un sentiment d'appartenance, déjà, à quelque chose. On est toujours, je pense qu'on est fiers d'être de nos origines. Mais vive la Bretagne et vive l'Irlande.
So the great thing about being a Celtic is that we can travel all around the world and feel at home, because we're big people, and we are in France, we're in Spain, we're in Great Britain, we're in Canada. So yeah, that's cool.
Vous écoutez toujours Radio Calliope sur le 101.1 FM, et nous venons d'apprendre ce que être celte signifie selon les points de vue des scientifiques Ksenia et Malo et des gens ordinaires comme nous. Faisons maintenant une petite pause musicale avec la chanson The Call of the Mountains d'un groupe de metal celtique de Suisse, Evoluzzi.
Train. The call of the mountain.
Vous écoutez toujours Radio Calliope sur le 101.1 FM et aujourd'hui nous parlons de la culture celtique et de l'enseignement des langues celtiques à l'Université de Bretagne occidentale. Après avoir écouté nos locuteurs qui parlent sur leurs recherches, je pense qu'on peut dire à juste titre que la culture celtique est formée tout d'abord autour des langues, l'irlandais, le breton, l'écossais, le gallois, etc. En parlant de l'enseignement des langues celtiques à l'UBO, il est impossible de ne pas mentionner le CIL, le Centre interdisciplinaire des langues, anciennement la Maison des langues. La parole est à Filomena Tino, co-directrice du centre.
Bonjour, je m'appelle Filomena Tino, je suis enseignante d'italien et je dirige actuellement le CIL avec ma collègue Brigitte Moraga, hispaniste. Alors, le CIL, c'est le sigle pour Centre interdisciplinaire des langues. Donc, c'est le département, disons, qui gère les langues LANSAD, c'est-à-dire les langues pour spécialistes d'autres disciplines. Nous avons actuellement plusieurs langues, donc l'anglais, l'espagnol, l'allemand, l'italien et le portugais pour les langues européennes, disons. Quatre langues alphabets différents, l'arabe, le russe, le chinois et le japonais. Deux langues celtiques, le breton et l'irlandais. Et aussi, on a le français langue étrangère pour les étudiants étrangers. Il y a aussi le centre Calliope, un centre d'auto-formation dans lequel les étudiants peuvent venir pour faire des exercices d'auto-formation ou rencontrer les différents lecteurs des langues qu'on propose. Eh bien, les langues, ça devient un enjeu pour nos étudiants. Nous rappelons également qu'il y a pour beaucoup de destinations des voyages Erasmus. Et donc, une langue, même une langue pour non spécialistes, pour des étudiants, par exemple, font histoire ou psychologie, peut être, peut changer la vie parce que l'étudiant peut partir dans un séjour Erasmus et donc donner un nouvel élan à ses études et donc à sa future carrière.
Et la formation linguistique à l'Université de Bretagne occidentale est également assurée par le Pôle Langue, un service transversal qui propose aux étudiants de l'UBO des unités d'enseignement libre ainsi que des ateliers de conversation et d'échange en FLE, français langue étrangère, en breton et en 10 autres langues.
Et pour ceux qui veulent pratiquer le breton dans une ambiance plus informelle, il y a également des ateliers de langue qui ont lieu pendant la pause midi une fois par semaine. Animés par des tuteurs étudiants, pour les étudiants, les ateliers du Pôle Langue ont pour but de vous faire échanger de manière naturelle et décontractée.
Donc hier, j'ai parlé avec Préhan Nergal, animateur des ateliers de breton cette année, pour en apprendre plus.
Eh bien, je m'appelle Bréhan et je suis étudiant en troisième année de breton. Et puis j'ai animé en fait les ateliers de conversation et d'échange en breton, débutant et non débutant, en fac de sciences et de lettres durant l'année scolaire passée. Alors les ateliers sont, contrairement aux cours, animés par des étudiants, ce qui est en réalité des cours informels en réalité. Surtout quand on est au niveau débutant où il faut bien donner quelque part des bases pour pouvoir pratiquer ensuite, parce qu'on ne pratique pas à partir de rien. Après, les cours non débutants sont plus de l'ordre de la discussion, plus ou moins amicale et informelle, parce que effectivement on est entre étudiants. Après, pour le contenu des cours, contrairement aux cours qu'on a à la fac, ou plutôt le contenu des ateliers, eh bien c'est selon ce que cherchent et ce que veulent les étudiants qui y vont. C'est-à-dire qu'on leur demande qu'est-ce que vous voulez faire, si eux préfèrent apprendre à chanter une chanson, ou alors préfèrent faire des cours à peu près normaux, ou bien préfèrent, je ne sais pas, avoir des détails culturels. Eh bien, je m'adapte et puis je réponds à leurs attentes. Alors, ces ateliers sont ouverts à tout étudiant de l'UBO. C'est-à-dire qu'il suffit d'être inscrit à l'UBO, n'importe où, et puis venir, quoi. C'est aussi simple que ça.
Donc, si l'opportunité d'échanger en breton vous intéresse, vous pouvez vous renseigner avec Pôle Langue ou avec le CIL. Et l'année prochaine, gardez un œil sur les affiches qui annoncent les lieux et les heures des ateliers. En plus, l'entrée des ateliers est libre et ouverte à tous les étudiants de l'UBO. Et maintenant, un peu de musique. Voici une chanson par Etna Nihulran, Miaron Saurik, l'ivresse de l'été. Écoutez toujours Radio Calliope, l'émission 100% langue, aujourd'hui avec le chapitre 2 sur les Celtes.
En parlant des langues celtiques à l'UBEUL, il serait impératif de mentionner le CRBC, Centre de recherche bretonne et celtique, situé à la Faculté des Lettres ici à Brest et aussi à l'Université de Rennes 2. Là, vous trouverez des historiens, linguistes, ethnologues, sociologues avec des thèmes de recherche relevant des aires culturelles bretonnes et celtiques. Chaque année, le CRBC organise une douzaine de colloques scientifiques et contribue environ 60 articles dans plusieurs publications. Cette semaine, j'ai parlé avec Ronan Calvez, directeur du CRBC à Brest.
Je m'appelle Ronan Calvez, je suis professeur de langue et littérature bretonne à la Fac des Lettres de l'Université de Brest et je suis actuellement directeur du CRBC, du Centre de Recherche Bretonne et Celtique. Le CRBC, c'est trois choses. C'est un laboratoire qui regroupe des enseignants-chercheurs de Brest, principalement, mais également de Rennes. 43 enseignants-chercheurs en tout. La Bretagne, c'est pas une science, le breton, c'est pas une science, mais on travaille sur ces objets-là avec des lunettes d'historiens, des lunettes de sociolinguistes, des lunettes de littéraires. Donc un laboratoire. Le CRBC, c'est également une bibliothèque qui est ouverte à tous les publics, qui comporte plus de 60 000 ouvrages, plus de 2000 revues d'abonnement à des revues. Donc c'est une bibliothèque qui est spécialisée sur la matière de Bretagne. On essaye également d'acheter, de compléter nos collections et d'acheter des ouvrages anciens. Donc c'est une bibliothèque spécialisée, mais qui est ouverte à tous les publics, hein, puisque les gens peuvent venir consulter la bibliothèque, c'est gratuit. Et troisièmement, c'est également une maison d'édition, puisqu'en effet, nous publions tous les ans une dizaine d'ouvrages, des ouvrages spécialisés. On a différentes collections, et des ouvrages bilingues. On a également deux revues qui sortent tous les ans, la Bretagne linguistique, qui est une revue qui regroupe les communications de séminaires qui ont lieu trois fois dans l'année. On publie les actes de ces colloques. Donc le CRBC, c'est un laboratoire de recherche, une bibliothèque et une maison d'édition. Donc le CRBC organise tous les ans des colloques. Le prochain gros colloque qui va avoir lieu là au mois de juin, c'est un colloque de littérature sur écrire le pays natal, c'est-à-dire comment dans l'espace francophone on a écrit, décrit et fantasmé le pays natal, le pays d'où l'on est. Et donc il y a des spécialistes de différents espaces géographiques francophones qui vont venir présenter et se poser la question de ce qu'écrire le pays natal veut dire.
C'était Ronan Calvez, le directeur du CRBC. Vous pouvez visiter le CRBC qui se trouve au quatrième étage dans la faculté des lettres, dans la bibliothèque Yves Le Gallo, nommée après le premier directeur du centre, et il faut absolument rester au courant des fêtes pour célébrer le 50e anniversaire du centre l'année prochaine.
Et aussi, nous avions eu l'opportunité de parler avec un des chercheurs liés avec le CRBC. Voici encore une fois Malo Adeux qui va nous expliquer le sujet de sa thèse.
Bonjour, je m'appelle Malo Adeux et je suis en première année de doctorat au CRBC, au Centre de Recherche Bretonne et Celtique à l'UBO. Mon sujet de thèse porte sur la traduction d'Arès le Phrygien, qui est un auteur pseudo-historique qui était considéré comme un témoin oculaire de la guerre de Troie et dont le texte, assez court, a été souvent lié à l'histoire des Bretons. Et l'existence de ce personnage est assez peu probable, en fait, et on pense qu'il s'agit d'un faussaire, disons, d'un personnage qui se serait fait passer pour un témoin oculaire de la guerre de Troie. Mais ce texte a eu un succès phénoménal en Europe jusqu'à la fin du Moyen-Âge et a été traduit dans plein de langues, dont l'irlandais, le bulgare, l'italien, le français, etc. Et une des particularités de ce texte en Europe de l'Ouest, c'est qu'il est associé assez souvent dans les manuscrits à l'histoire des Bretons. Parce qu'on pense à l'époque que les Bretons sont les descendants des Troyens. C'est-à-dire que les Troyens se sont enfuis de Troie en flammes, un certain nombre, et les descendants d'aînés, le seul héros troyen qui s'est échappé, ont occupé la Bretagne et c'est eux qui ont donné à la Bretagne le nom de Bretagne, à la Cornouaille, le nom de Cornouaille, etc. Et donc ces textes-là, à partir du 12e siècle, vu qu'on écrit l'histoire des Bretons, on va associer ce texte-là qui raconte la guerre de Troie. Ça permet un petit peu d'avoir une histoire, une chronologie un peu plus grande, dans l'optique où on veut créer une histoire du monde, de la Genèse à une époque contemporaine. Donc moi, je m'occupe d'étudier de manière comparative trois traductions, qui sont une traduction française du XIIIe siècle, une traduction galloise du XIVe siècle et une traduction islandaise d'environ le XIVe siècle. La date est un petit peu discutée. Et leur point commun, c'est justement d'associer histoire des Troyens et histoire des Bretons.
C'était Malo Adeux, doctorant en études celtiques, qui nous a un peu parlé du sujet de sa thèse, c'est-à-dire les liens dans l'histoire de Troie et l'histoire des Bretons. Nous allons maintenant à la faculté des sciences du sport et de l'éducation, où nous avons parlé avec Tanguy Philippe, maître de conférences et chercheur dans le dolmen des sports traditionnels.
Bonjour, donc je m'appelle Tanguy Philippe, je suis maître de conférence à la faculté des sciences du sport et de l'éducation. Je fais mes recherches sur les sports et jeux traditionnels, ou les sports qui sont rattachés particulièrement au domaine celtique. Alors j'ai travaillé sur les sports de lutte, à commencer par le gouren ou la lutte bretonne, qui s'est structurée au tout début du XXe siècle en lien avec le mouvement celtique, donc des mouvements littéraires, des mouvements économiques et culturels, notamment le gorset des druides de Bretagne pour les tout premiers moments. Et ensuite, mes recherches concernent le développement, donc ce lien entre un sentiment d'identité qu'on projette en partie sur le sport et qui va jusqu'à restructurer le sport, permettre de restructurer le sport, parfois même changer les règles du jeu. Donc, de manière très concrète, ce qu'on considérait comme la lutte bretonne fin du 19e siècle, juste en 1930 quand elle est codifiée ou actuellement, c'est quelque chose qui, bien sûr, évolue avec le temps, les représentations, et notamment ce qu'on considère breton ou celtique. Alors, par la suite, notamment pour mon doctorat, j'ai travaillé sur l'espace celtique, mais également en dehors, avec cette approche développée aux routes de la soie. Donc je suis allé faire des observations participantes, donc de l'ethnographie jusqu'en Mongolie, en Ouzbékistan, et voir donc ces styles de lutte qui sont présents tout au long des grandes routes commerciales qui vont de la Chine à la Méditerranée. Ça permet de voir ce genre de mécanisme avec des choses parfois plus récentes, parfois plus anciennes, mais en tout cas un lien entre ce qu'on se représente de la force, ce qu'on se représente des hommes et des femmes, les questions de genre sont extrêmement présentes dans tout ça, et l'impact, la projection qu'il peut y avoir sur le sport.
Et c'était Tanguy Philippe qui nous a expliqué la thématique de sa thèse sur le gouren et comment il est lié historiquement avec d'autres formes de lutte dans des pays lointains, tels que l'Ouzbékistan, ainsi que le fait que notre conception de la force féminine et masculine soit structurée par la société. Et maintenant, une chanson en gaélique écossais. Voici Capercaï avec Imbóg, Odamian M. Egin. Je suis en détresse.
cichą malinię mochanie, gdy raz to nam tłaczesz i kostaj ganaci, kwal czery dłaj, zanieri go kołmacie, maraha się wam dłożyć.
Embokio,
na bijanym biegin,
embokio,
na bijanym biegin,
embokio,
na bijanym biegin, a nie walcie to, nie zawrota na treci.
Embokio,
na bijanym biegin,
embokio,
na bijanym biegin,
embokio,
na bijanym biegin, a nie macie to, nie zawrota na treci.
Écoutez toujours Radio Calliope sur Radio U, l'émission 100% langue pour l'épisode bonus chapitre 2 sur les Celtes pour cette saison finale.
Entre-temps, l'heure du déjeuner approche. Marlène, qu'en penses-tu? Est-ce qu'il existe une cuisine celtique?
Difficile à dire, mais la cuisine irlandaise existe, ça c'est certain. Et à mon avis, les plats irlandais sont certes simples, mais vraiment délicieux. Aujourd'hui, avec Ken et toi, Katrina, ah oui, lecteur d'irlandais, nous allons découvrir un de ces plats qui porte le nom de Colcannon. On écoute ça tout de suite dans notre rubrique mensuelle Recettes de cuisine.
Did you ever eat Colcannon made from lovely pickled cream, with the greens and scallions mingled like a picture in a dream? Did you ever make a hole on top to hold the melting flake of the creamy flavored butter that your mother used to make?
Maintenant, on va apprendre comment faire une spécialité gastronomique irlandaise qui s'appelle Colcannon. On est dans la cuisine avec Ken, un lecteur en irlandais, et ça sent très très bon en ce moment. Donc Ken, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu es en train de faire en ce moment?
Oui, Marcin, pas mal de dans Colcannon, Colcannon, à Skelga. Marnitir Katrina, so clotha Osering, clotha Kritienta, Agus Thorod, Saplotha so, Proti, Agus Kabosta.
Ce qu'il dit, c'est que le plat, il s'agit de deux ingrédients principaux. Après, vous pouvez rajouter ce que vous voulez, mais les deux choses principaux sont les pommes de terre, bien sûr, et le chou.
Marcin, ça est Carl Cannon. Carl, c'est un kabosta. Marnhog Mouizan is sir, ach Carl and fucking Kenna. Agus Cannon, Keelin, she's in Bon. Ach, Nader, Cadaspree, that's in Mon, Sahasa. Ach, Tana Prati, is the Sapata Green. Agus Tan Kabasta, is the Sapata Ella. Agus Inakaloha, Tarines Inuin. Agus Tashid, Tashid Avrocha Green. Legalor Imma, so Marcin Ta Im, Agus. Inun, agus propi, agus kabasta, agus siad skadair arreit achagain.
Donc, l'étymologie du nom, Colcannon, ça vient de l'irlandais. Et col, c'est l'ancien mot pour chou. Et cannon, c'est un mot pour décrire quelque chose blanc. Très souvent, quelqu'un avec les cheveux blondes, parfois. Mais dans ce cas, on ne sait pas pourquoi la traduction, ce serait chou aux cheveux blondes. Et maintenant, on est. Ce qu'il a dit, c'est qu'il prépare les pommes de terre dans un pot avec de l'eau cuire, et les choux dans un autre pot. Et juste à côté, dans la poêle, il prépare les oignons, et c'est pour ça que ça sent très très bon. Et c'est des oignons avec du beurre. Voilà. Et quoi d'autre dans le dans la recette que tu vas nous préparer aujourd'hui?
Lorsqu'on t'a im, t'a glorlor imme in son flatisha, agus erbaul cortamid began uachter lesh choma, agus thorishin blas an a villista salin agus is gair gmeshe dortigum. They grind salin agus grind pjober agrin choma. Rodvan Marioler, no, his plath e, a winning le shin mia a vi owned on dinner on law remission, where shin is killed on a prothesian in a grand to Gothrod, Lekela, and law an eaction, a kistin and pere to hurish.
Avec les pommes de terre, les oignons, le beurre, il y a aussi de la crème qui va rajouter plus tard, qui donne un goût très spécial au purée après. Et du sel et du poivre aussi. Il a dit aussi que ce repas, c'était très souvent les restes du repas du jour d'avant. Donc c'est pour ça que les gens, ils ajoutaient de la viande, parfois ce qui restait d'un autre repas. Donc c'est très très flexible, c'est très économique et très délicieux, il faut avouer. Donc quelle est la première étape?
On Hedrod, a Tolitinov, on Kraken of Winston, a Prothi.
Ok, donc éplucher les pommes de terre.
Dirichni Yixin, et de her Stachen Ishka, August et de Vre.
Après, les mettre dans un pot d'eau et faire cuire dans l'eau bouillante. Combien de minutes?
Blanchir en a Prothi Tainach, c'est qu'on a fait un amende.
Donc ça dépend des pommes de terre, mais normalement 20 minutes.
In Yixin,
après, rajouter le chou dans l'eau chaude aussi.
August Mata Martin bien on kabasta August Napati or Ratsachanenacht new Scarha August on son garden to Suis Nahinuan August Kurunto Stach Botta Ella in Akilo.
Donc en même temps, il faut émincer les oignons et les faire revenir à la poêle.
Bien glorlor imme is still as ni hinun agus fagan tu beidr dehnamed nu cuig no mai degid is tis tanim agus fanan tu an son gadeig lil gafra bella ring.
Laissez les oignons avec le beurre et il faut attendre jusqu'à le reste soit prêt.
Derrière hall, buenin tu na prati agus on kabasta danishka.
Il faut enlever l'eau des choux et des pommes de terre.
Agus maskin tu gachrod lechela.
Il faut mélanger tout ensemble.
Agus nurien tu sa kren tu tille imme agus salin agus pjober leshen rodelig.
Et après, on ajoute plus de beurre, du sel et du poivre.
On a dit une mouette en ort, parce qu'avril nous aime sur ça. Kurdamid rind uchterlesh in Yixin.
Donc, c'est une version plus moderne, plus française peut-être de Colcannon. Ce soir, on va rajouter de la crème fraîche aussi.
August, Kurdamid de Sachsen, Ayane, Erfai Beder, Denomid, Rod Nachwil, Tradishimse.
Et après, on le met dans un plat à four et on le fait cuire encore un petit peu, peut-être environ 10-15 minutes.
August, Dera Erfad, Mahastinu, it's Ryan Koish, her bar, it's Federish and Yenov. August, Darnaway took a session, Blas, Niestesha Falls, Dunrod.
Et si tu veux, si tu es très gourmand, comme Ken, je pense, tu peux mettre du fromage dessous avant de le mettre dans le four.
August, chené.
Et c'est tout.
Marchin, bigisor, shishin, bierfernohen, lenehegrid.
Donc, bigisor, c'est une expression en irlandais et ça veut dire vous pouvez manger autant que vous voulez.
J'ai goûté le Colcannon et c'était très, très, très bien. Merci beaucoup, Katrina et Ken. Vous êtes toujours sur Radio Calliope sur le 101.1 FM, l'émission 100% langue. Mélanie est avec nous aujourd'hui pour nous faire découvrir tous les événements en langue étrangère à Brest et aux alentours. Mélanie, à vous la parole.
Bienvenue dans l'agenda des langues, une sélection non exhaustive d'événements dans toutes les langues. Ce mois-ci, on vous propose du cinéma, des rencontres, des concerts et du théâtre. Pourquoi pas commencer ce soir en allant voir à 18h20 au studio Sonate pour Rus, un film norvégien. Ou alors pour la séance de 20h, Nobody's Watching, un film argentin se déroulant à New York. Si le cœur vous en dit, tout au long du mois de mai, vous pourrez participer tous les mercredis au Language Exchange Evening, organisé par Brest International à 21h au Cottage. Vendredi 11 mai à 20h30, découvrez les londoniens très rock'n'roll de The Fusillis en concert au Petit Minou, c'est 6€ l'entrée. Le lendemain, pour vos 2€ seulement, profitez d'un fest-noz exceptionnel à l'occasion de la course à Redadeg, à l'Armorica à Plouguerneau à partir de 20h30. Mercredi 16 mai, comme d'habitude, apportez un plat à partager et pratiquez la langue de votre choix pendant l'apéro-langue de la Maison pour tous de l'Arte-Loire, à partir de 18h45. S'il fait beau, et on l'espère vraiment, on vous recommande d'aller dans les jardins de l'abbaye Notre-Dame de Daoulas pour admirer les clichés de coiffure pris par J.D. Okai Ojekere. L'expo s'appelle Hairstyle. Mercredi 23 mai, venez parler chinois avec des Français et Français avec des Chinois au coin chinois organisé par l'Institut Confucius de Bretagne à partir de 18h30 au BH Café. On reste en Orient jeudi 24 mai avec le concert de Fawaz Baker et ses invités à 19h30 au Quartz. C'est 12€ la place. Enfin, on finit le mois de mai au théâtre avec la pièce d'Alexandre Kouchevski, jouée en langue mourée et française, M. Gulsda Yam depuis Ouaga ou Je vous écris depuis Ouaga à 19h30 à l'école Penersreat. C'est fini pour l'agenda des langues. Profitez bien!
Merci Mélanie et merci à tout le monde qui nous ont permis de réaliser cette saison à Radio Calliope. En particulier, un grand merci à Morgane Durenbach, coordinatrice à Radio U. Merci aux locuteurs qui ont donné de leur temps et qui ont partagé leurs pensées, leur avis, leur culture et leurs recettes avec nous. Merci finalement à vous, chers auditeurs, pour partager ces vendredis avec nous. Nous espérons que vous avez appris quelque chose et passé un bon moment avec nous.
Et nous vous souhaitons un bon été et au plaisir de vous revoir en automne. À la prochaine, Kenavo Argentin, Slang Fall.
Je vous laisse avec la chanson Rin Namara par John Spillane. See you next time. Bye everyone.
Horizontal of the rocha, so frosh to fling labo. Goros crown art castain, good day on the sun night. Forever mochas, a crave a home of love. Forever mochas, a cause of ensign life. The lure of ruin, shade is a boy. And the air of doom, kehu shoig me. She's going to Mara, I'm a Tishan Troll. Queerish Girahe, the Kyo, the Tree Wall. Kangil, the Gesh, the Scotter, the Crop, Crocker, only a Crocker on the Clock. And you're a doing, ten in a slew, and a Kaluik, Shinagushoi, too. Shade is a boy, and the air a doig, care who is showing me.